Bonjour à tous, je crois que pour ne pas perdre de temps, on va commencer. Donc on accueille aujourd'hui pour la première fois au Festival des Utopiales l'écrivain taïwanais Gao Yifang. Alors c'est la première fois que cet auteur vient aux Utopiales. C'est en revanche pas la première fois que l'on a un auteur taïwanais au festival. C'était le cas déjà, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là il y a 2 ans, avec un auteur qui s'appelait Dida Wei pour présenter son roman Membrane. Donc vous avez ici un petit... visuel, je ne sais pas si tout le monde voit bien, qui était venu donc présenter ce roman qui est ensuite paru en poche. Et puis la science-fiction de Taïwan, même si évidemment elle est encore très méconnue, bénéficie quand même d'une petite visibilité en France et en langue française avec un autre roman qui n'est pas paru dans une collection véritablement de science-fiction, L'homme aux yeux à facettes de Wu Mingyi. Alors, malgré le fait que tous ces auteurs et Gao Yifang également viennent de Taïwan, leurs écritures sont pour autant très très différentes. Elles se valent toutes, si vous voulez, elles sont toutes bonnes à lire, mais elles diffèrent beaucoup. Et si Gao Yifang est là aujourd'hui, nous en reparlerons tout à l'heure, c'est pour son roman La guerre des bulles, qui vient d'être traduit en français, dont j'ai l'honneur d'être le traducteur, qui est paru aux éditions Mirobol. Et donc évidemment, on pourrait le retrouver tout à l'heure à la librairie. Simplement pour présenter en quelques mots le parcours de Gao Yifang, et puis après je lui poserai certaines questions. Je vous laisserai également un petit peu de temps pour discuter avec lui. Il a un parcours un petit peu atypique. Il a été barman pendant 6 ans. Vous verrez que c'est aussi en lien avec son écriture. Il a vécu entre Pékin, donc en Chine, et Taipei, la capitale de Taïwan. Il a également été rédacteur en chef pour GQ et FHM. Ce n'est pas l'image qu'on se fait dans un premier temps d'un écrivain de science-fiction ou pas, on le verra tout à l'heure. Et il est passionné de whisky, donc là vous avez, on reviendra tout à l'heure sur ces 2 romans, mais son dernier ouvrage qui est un ouvrage autour du whisky. Ah, donc on est allé goûter des whiskies, un whisky breton et un whisky corse pendant le festival, histoire de que ce soit le plus compréhensif et le plus global possible. C'est un écrivain qui échappe un petit peu à la définition aux étiquettes de genre, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Ses premiers textes ont été écrits en langue Hakka. Alors le Hakka, c'est une langue chinoise, mais qui n'est pas la langue nationale à Taïwan. La langue nationale est le mandarin. Ses romans et ses recueils de nouvelles plus récents sont écrits en langue chinoise. Vous avez ici donc La guerre des bulles, donc la couverture originale, de 2014, et un autre roman, bon, traduit pour l'instant inédit en français, mais que vous retrouverez peut-être dans quelques temps chez Mirobol, qui sait, L'Asie des illusions, dont on va un petit peu reparler tout à l'heure. Donc simplement, cette question, ce ne sont pas des romans à proprement parler, véritablement de hard science ou de soft science. Simplement, demander un petit peu à Gao Yifang comment est-ce qu'il présenterait ou comment est-ce qu'il essaierait de définir ses romans.
Je pense que c'est une question de科幻的定义,或者你怎么看像泡沫战争这种乌托邦、厄托邦那种概念。 我先谢谢大家今天到这个文学节来听我讨论有关于台湾的这个科幻。台湾其实接触科幻这些年来，我觉得有蛮不一样的这个发展。主要是台湾一直以来都是以就是一般的传统的小说家去进行。 这个小说书写的时候，涉及到了科幻题材，然后变成了台湾自己比较特色的科幻小说。台湾的科幻小说的发展，大方向是这样子的。
Alors, en réalité, pour parler un petit peu de science-fiction taïwanaise, ça a été évoqué aussi le premier jour lors du table ronde sur la question de la science-fiction en Asie. Il n'y a pas vraiment de courant de science-fiction à Taïwan. En revanche, beaucoup d'écrivains qu'on associerait à la littérature générale, s'empare de beaucoup de questions qui sont prégnantes dans la science-fiction. Et chacun à sa manière, et vous avez l'exemple aussi avec les autres romans qu'on a cités tout à l'heure en présentation, d'auteurs qui ne sont pas forcément étiquetés auteurs de science-fiction, mais qui vont prendre pour réflexion dans leur travail des éléments qu'on associe à la science-fiction.
泡沫战争这个故事，其实是一开始讲的是一群在社区里面，因为饱受了没有干净的自来水，然后以及这社区里面有非常多可能会伤害或者是吃掉小孩的野狗，因为成人的世界没有办法解决这两个非常重要的生存问题。 所以在社区的孩子就决定组成一个军队兵团。那透过这个军队跟兵团这些人就是占领了这一整个社区，然后开始管理这个成人世界。一个这样子的一开始其实是有点像是一群孩子想要建立乌托邦这样子的故事。
Alors, l'histoire en réalité de la guerre des bulles, elle commence et elle se déroule dans un faubourg de montagne, pas très loin d'une très grande ville, un faubourg dans lequel on n'a pas accès à de l'eau courante potable, propre, et qui fait face à des attaques répétées de chiens sauvages qui mangent les enfants. Et de cette situation un peu tragique, un groupe d'enfants, un bataillon d'enfants se met en place et va prendre le contrôle du faubourg en éliminant alors, physiquement et non les adultes qui sont au contrôle du faubourg pour essayer de mettre en place ce qui peut s'apparenter au début à une utopie ou en tout cas un moyen de compenser à l'incompétence des adultes.
但是呢，这些孩子呢，之所以做这件事情，主要的原因是因为，他们不太愿意长大，因为他们觉得长大之后呢，他就会变成像他们的父亲或母亲一样，变成是一个完全没有能力去解决任何问题的成年人。那也因为这样子，所以这有一点点好像是希望自己的身体的时钟能够停止的一个这样的期待。在这样的期待之底下，这些小孩子开始展开他们管理社区的一个方法，但是他们订了非常多的制度，就像创建一个乌托邦的社会一样，但是在这个创建乌托邦社会的这个过程，他们又开始渐渐的被他们所制定出来这些制度给慢慢的扭曲，慢慢的打击。
Alors, l'un des premiers souhaits et des espoirs de ces enfants qui prennent donc le contrôle du faubourg, au-delà du fait de d'être plus efficaces que leurs aînés, c'est un désir de ne pas grandir, pour ne pas devenir à leur tour ces fameux adultes incompétents qui n'agissent pas pour le bien de la collectivité. Donc cette première idée de départ, c'est comme s'ils voulaient finalement faire cesser l'horloge biologique interne, faire cesser le temps, pour rester à jamais des enfants, en tout cas plus compétents que les adultes. Alors dans un premier temps, ce système qui se met en place a effectivement eu des allures d'utopie, et peu à peu, le système va évidemment les corrompre, ou en tout cas, le système en question va se disloquer. Et un certain nombre d'éléments du système qu'ils avaient combattu va se retrouver à l'intérieur de leur propre système.
Ils essaient de faire tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est une histoire qui est plus intéressante ou plus intéressante.因为在这个整个社区被小孩子攻占了之后，他们就开始使用他们自己的武器。小孩子的武器是什么？可能就是玩具枪，或者是像塑胶的刀子，或者一些小孩子的弓箭。但是他们却使用这些小孩子的玩具，他们却可以杀死大人，或者是把这些在社区里面流窜，会试着把小孩子的背影、影子叼走的这些野狗。就是进行屠杀的过程，所以这是一个小孩子使用他们的武器进行幻想的一个就是武器的工具，对，工具这样。
Et alors à partir du moment où la première décision des enfants a été de barricader toutes les frontières du faubourg, d'isoler le faubourg, vont se passer un certain nombre d'événements qu'on pourrait qualifier éventuellement de fantastiques à l'intérieur de la communauté. Des exemples, par exemple, sur la prise de contrôle par les enfants du faubourg, en fait, ils mettent à mort certains adultes simplement avec leurs jouets ou leurs armes en jouets. Donc, ça peut être des pistolets à billes, ça peut être des sabres en plastique, ça peut être d'autres éléments. D'autres éléments fantastiques, comme par exemple cette lutte qui va s'engager contre les chiens sauvages, qui dévorent non seulement pas que les enfants, mais aussi leurs ombres. Qu'ils vont finir par enfermer dans une piscine et pareil procéder à un massacre collectif des chiens sauvages ou d'une partie des chiens sauvages rien qu'avec leurs jouets. Alors peut-être une question justement puisque c'est un roman qui vous aura sans doute fait penser à Sa Majesté des Mouches de Golding. Alors c'est évidemment pas un hasard, le personnage principal de La Guerre des Bulles se nomme en chinois Gaoding, qui est en fait l'acronyme, enfin la transcription de Golding pour Sa Majesté des Mouches. Des thématiques sont récurrentes, même si vous avez l'occasion, et je l'espère, de lire le livre, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différences. Simplement une question sur justement ce roman qui est presque un roman d'initiation. Comment est-ce qu'il s'est mis finalement, ou comment est-ce qu'il a essayé de penser ou de construire son histoire à travers le regard des enfants ?
在写这个故事的时候啊，我经常在因为这个故事发生的地点就在台北这个城市的边缘一个近郊也是我自己居住的一个社区。那这个社区呢我其实是一个靠山的社区。那我当时在写这个小说的时候经常做一件事就是蹲下来跟我的儿子大概在就是差不多八九岁吧。然后在差不多他那样子的高度去看这个社区但是当我蹲下来之后就发生一个很有趣的事就是在我们社区的中央有一个喷水池我自己现在的身高去看的时候呢它就是一般的喷水池，但是当我蹲下去的时候呢，这个喷水池的这个形状它是一片一片一片的，然后每一片这个水泥的上头突然就会喷水出来，那每一片水泥突然之间就对我来说就好像从我儿子的高度去看他的时候，他就变成了像飞碟一样。
Alors pour prendre un exemple, j'habite donc dans ce qui s'apparente à ce fameux faubourg de montagne tout proche de la ville de Taipei, et je m'amuse souvent à m'accroupir pour me mettre à la taille de mon fils qui a maintenant 8-9 ans, pour regarder le faubourg et regarder comment lui, éventuellement avec ses yeux à sa taille, il voit le faubourg. Un des éléments rigolos, amusants, c'est qu'il y a une fontaine au milieu du faubourg. Que de ma taille d'adulte, quand je la regarde, s'apparente à une fontaine tout à fait classique. Mais en m'accroupissant, j'ai remarqué que la fontaine était un petit peu formée par plateforme. Et elle ressemblait, en tout cas à cette taille-là, à des soucoupes volantes. Et cette fontaine aux soucoupes volantes se retrouve à l'intérieur du roman.
Un autre élément que je remarque, c'est que 好像圆形的这个一个空间，那对于他们来说，这个圆形的空间，其实是可以跟很多事情沟通的。就是他们觉得，比如说在这个圆形的里头就是地球，圆形的外头就是地球外面，所以一个圆形的地方对他们来说有很多很多可能的想象但是透过一个这样的想象，我就把那个社区的孩子经常玩的这个像石头的这个阵列，变成了在社区里面被野狗咬死的小孩子，他们就会把它埋葬在那个像地球一样的那个圆形的石阵里头。
Un autre élément, par exemple, c'est que mon fils et ses amis s'amusent à former des cercles de pierre en mettant donc des pierres en cercle et en imaginant voilà que l'intérieur du cercle se passe un certain nombre de choses.Différentes de l'extérieur, par exemple que le cercle de pierre est la planète Terre et qu'à l'extérieur c'est l'univers. Et donc j'ai utilisé un petit peu cette image en imaginant dans mon roman le fait que finalement les enfants viendraient enterrer à l'intérieur du cercle de pierre les enfants dévorés par les chiens sauvages.
Je suis en train de parler avec mon fils, 太阳底下这个影子摇走之后，然后你就突然之间失去影子了，然后因为失去影子呢，你就变成非常非常的胆小，那因为胆小所以你就可能无法长大，然后我经常跟我的儿子问这个问题，那他会反馈给我很多孩子的世界的一些想法。首先他会觉得说野狗如果真的要咬的话，一定会咬我的腿，他不会咬我的影子，然后他会跟我反馈很多有趣的事。那另外一件事就是说，他会觉得说小孩子不可能不长大，小孩子一定会长大，所以他有很多来自于这种对我来说是一个小读者的一个观点的。
En réalité, je discute souvent avec mon fils qui me sert de premier lecteur, et dans la conception de ce roman, j'ai beaucoup discuté avec lui autour de la question, par exemple, des ombres, c'est-à-dire comment est-ce qu'il voyait le fait que des enfants puissent se séparer de leur ombre, et sans ombre, l'enfant devient peureux. Et donc j'aime discuter avec lui de ces questions-là en essayant de voir comment lui, avec ses yeux éventuellement d'enfant, peut modifier un petit peu certaines conceptions que j'avais dans mon histoire. Par exemple, est-ce que le chien s'attaquerait davantage à l'ombre ou à l'enfant lui-même ? Et donc voilà, c'est un petit peu comme s'il me servait de premier relecteur et il m'a aidé à concevoir ce roman. Alors, ce qui est intéressant avec ce roman, lors de sa publication, en termes de contexte de publication, c'est qu'on est en 2014 à Taïwan, en mars, Et au même moment, a lieu à Taïwan un grand mouvement étudiant, un grand mouvement démocratique, qu'on a appelé ensuite en France, enfin à Taïwan, et qu'on connaît aussi en France sous ce nom-là, le mouvement des tournesols. Le mouvement des tournesols, pour vous faire un topo en 30 secondes chrono, c'est une réaction de la part notamment des étudiants taïwanais à une loi passée en force au Parlement qui mettait en danger la liberté de la presse à Taïwan, c'est-à-dire en ouvrant des capitaux de la presse à la Chine. Et donc, ce mouvement étudiant a occupé pendant 3 semaines, ce qui n'est pas rien, le Parlement taïwanais. Et ce roman, donc, il raconte l'histoire d'une groupe de gamins qui va occuper un espace pour pallier à la compétence des adultes et qui est sorti simultanément avec le mouvement, a été interprété par certains lecteurs, par certains critiques, comme une fable anticipatoire un petit peu de cet événement. Donc peut-être demander à Gao Yifang ce qu'il en pense et éventuellement ce qu'il aurait à nous dire sur cette simultanéité et peut-être sur le caractère anticipatoire de la science-fiction.
就是关于太阳花学运的跟这本小说同出版的问题，就是可以请你谈一下。就是非常巧合的，我想在座可能在关啊比较关心国际讯息的朋友们，可能知道在2014年的时候，台湾发生了一个非常重大的就是三一八学生攻占立法院的一个学运，那也是就是那个同一个月份。 其实我的这本书《泡沫战争》就计划在2014年的3月份出版，所以就在几乎是同一个时间，这个小说就是一群孩子攻占社区管理大人的这件故事，跟台湾的这个三一八的学生的运动就在同一个月份发生了。那所以在当那个当下，就有台湾非常多的这个评论家。
Donc effectivement, c'est une coïncidence entre la publication du roman et donc ce fameux mouvement des tournesols où les étudiants ont occupé le Parlement et ont attaqué entre guillemets le Parlement. Et effectivement, beaucoup de lecteurs, beaucoup de critiques, notamment le préfacier qui a écrit une préface express pendant la semaine de la publication, a essayé de faire le lien entre cet événement et le contenu du roman.
比较特别就是在整个小说的故事里面有一段，就是比如说那个小孩子为了要解决社区里面的野狗，所以他们把这所有的野狗呢引诱到一个游泳池里头。那游泳池他用什么样子去引诱这些野狗？就是用干净的水。 因为这些小孩子想办法从山下偷了很干净的自来水到山上之后，也让这些野狗需要喝干净水的野狗，因为自来水的关系，整个被等于是困在那个游泳池的周边，因为那游泳池周边都有一些栅栏。那这个孩子去把野狗整个困住，最后面他们把所有的野狗基本上都用他们孩子的武器，全部都屠杀掉了，都杀死了。 那这个过程其实对照到当时的那个就是台湾的学运学生运动的时候，它其实反映了一件事，就是说究竟冲进立法院的这些年轻的学生们，他们想要屠杀的是台湾的政治状态，还是他们其实才是被关进去的那一群野狗，因为他们其实把自己关在立法院里头。
Autre petit clin d'œil ou élément qu'on pourrait rapprocher également, mais qui en même temps pose question. Dans le roman, les enfants trouvent une solution pour détourner de l'eau de la vallée jusqu'au faubourg de montagne. Et les chiens sauvages, qui ont le même problème en fait que les enfants, à savoir la pénurie d'eau, vont finir par être attirés par les enfants dans une piscine en leur faisant croire qu'elle est remplie d'eau. Et ils vont enfermer les chiens sauvages dans la piscine pour justement mettre un terme à ce conflit. Et évidemment, on peut avoir un parallèle avec la manière dont les étudiants ont occupé le Parlement, sont arrivés dans un lieu vide, peut-être avant de vouloir attaquer ou tuer la vieille politique, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont quand même enfermés eux-mêmes à l'intérieur du Parlement.
所以用这样子的一个想法来看。 其实回应刚刚那个主持人说的问题， 它究竟是乌托邦的小说还是反乌托邦或恶托邦这样的小说，其实这里面我觉得它有非常复杂的那个可以讨论的地方。当然在这个小说发生了之后，后来可能大家也知道，在香港又发生了一个青年的这个就是雨伞革命，然后后来在整个阿拉伯的世界也发生了一个茉莉花革命，在整个在我能理解的那种状态下，这个小说在发生之后，他就一路的看见了很多世界上年轻人在反抗制度或反抗这个政府的一个像是革命一样的行动。那这个对我来说其实是这个小说很有趣的一点，因为我在写这个小说的时候从来没有想象过台湾会发生一个这么大的学运，也没有想象过香港也会发生一个这么大的学运。
Peut-être pour essayer de répondre à la question sur des liens éventuels ou sur le caractère anticipatoire d'un roman comme La guerre des bulles. Comme vous le savez certainement, de façon non simultanée mais consécutive au mouvement des tournesols à Taïwan, a aussi eu lieu à Hong Kong le mouvement des parapluies ou des mouvements non pas similaires mais en tout cas de révolution ou de révolte également dans les pays arabes, ce qu'on appelait révolution du jasmin, etc. Peut-être que l'un des attraits de ce roman, c'est que même si moi-même, j'avais absolument jamais imaginé qu'un tel mouvement puisse avoir lieu à Taïwan ou à Hong Kong, c'est ce qui fait peut-être l'intérêt de la littérature elle-même dans la manière dont elle pose un regard complexe. C'est pas forcément une utopie, c'est pas forcément une dystopie, c'est un peu quelque chose qui est à la frontière entre les deux et qui projette ou qui, en tout cas, illumine ce type d'événement. Alors une question qui est intéressante, qu'on retrouve dans La guerre des bulles, on parle d'utopie, dystopie, souvent ce sont des sociétés constituées, enfin que les auteurs situent dans l'avenir. Un événement un peu intéressant dans La guerre des bulles, c'est qu'on a l'impression que l'histoire se passe dans les années 80-90, avec notamment la présence d'émetteurs, de transmetteurs de radiomessagerie, un peu comme les tatous pour ceux qui étaient, je sais pas, qui ont connu ça dans les années 80-90, qu'on appelle les BB calls, mais ça avait véritablement existé, mais c'était un peu l'équivalent. Donc on trouvait ça à Taïwan. Peut-être une question justement sur ce choix temporel d'avoir situé cette histoire, non pas dans un avenir proche, mais dans un passé proche, notamment, sans doute, en tout cas d'après les faisceaux d'indices qu'on peut avoir dans le roman, dans les années 80-90. 不久以前的过去。
我觉得那个小说的内在设定很有趣，就是我们可以设定，比如说它是几百年后的太空旅游的年时期，那也可以设定在比如说20年前或30年前，我们还在并没有真正有手机的年代。我之所以设定这个年代，有个很重要的点就是，我觉得手机出现之后，所有的事情改变的速度就完全是一种。失控的加速度上面，在那个手机还没有真正出现之前，有一个很短的时期，就是 BB code 的时候，大家必须要先接受一个讯号在你的 BB code 上面，然后再用电话回扣去查询究竟发生了什么事。那我觉得那个时代的那个速度感对我来说非常适合这群孩子攻占社区的这种速度感。因为如果一旦有了手机，我觉得所有的故事设定可能对于孩子要在这样子的一个社区里面去跟外部世界产生一种隔阂感，我觉得相对是困难的。而且比较重要就是当孩子把自己这个军团困在一个社区当中的时候，对于外部世界究竟是不是世界末日，那这件事情就有很大的想象的空间。虽然我们知道 BB Code 是那个年代并没有发生任何世界末日，但对于这孩子来说，他没有看到外面的世界，那个跟世界末日是一样的。
Alors, en réalité, ce qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'on a et les romans, c'est qu'on a le choix de situer notre histoire quand on le souhaite. Ça peut être dans un futur extrêmement lointain avec des voyages intergalactiques, ou bien dans un passé proche. Et ce qui est le cas dans ce roman, peut-être il y a 30 ans, lorsqu'il n'y avait pas encore, qu'on n'avait pas encore véritablement de téléphone portable. Et c'est le sujet et le thème et l'histoire du roman qui va un peu dicter également le décor dans lequel on va la placer. Et alors ce fait qu'effectivement on n'ait pas de téléphone portable dans le roman correspondait avec la conception du temps que je voulais donner au roman et notamment celle des enfants. L'apparition des téléphones portables notamment a complètement bouleversé le rapport au temps, et notamment que ce soit spatialement ou temporellement. Et avec ces BB calls, ces radiotransmetteurs, ou ces transmetteurs de radiomessagerie, le temps fonctionne différemment. Il faut attendre un long moment avant de recevoir son appel, avant de rappeler, etc. Et je trouvais que dans l'idée que je voulais insuffler à la conception du temps par les enfants, cette époque-là correspondait mieux.
有关于这个时间的设定，我可以就是聊一下。我最近想到了一个我自己很，正在开始要写的一个科幻小说。对我来说，它是一个比较清楚的科幻小说，比较不是这一个乌托邦式的小说。那个设定基本上，我假想它会是在，说不定50年后的台湾。那50年后的台湾呢？究竟在那个年代是不是有一种？机器人就是 AI， 它是可以开始产生像是陪伴机器人这样子的一个功能。那如果有一个家庭，这个家庭当中呢有三个成员，一个是妈妈，一个是妹妹，一个是哥哥，而这三个人当中只有一个是真人，一个是 AI， 一个是赛博克。那在这样子的一个故事当下，我觉得会不会发生在50年后的台湾？我觉得这件事情在前一阵子有一部纪录片，就是Alex， 就是讲一个陪伴机器人的，我记得是加拿大的一个纪录片吧。他这个纪录片出现之后，就让我意识到，就是这件事情，终究会发生在说不定数十年后台湾这个岛上面。
Alors simplement pour compléter un élément que j'avais pas, c'est ma faute, traduit tout à l'heure, cette idée aussi d'être coupé du monde, d'avoir une communauté coupée du monde, était beaucoup plus pratique à réaliser sans téléphone portable.Et donc l'impression que les enfants pouvaient avoir dans le faubourg, c'était qu'à l'extérieur, c'était presque comme s'il avait lieu l'apocalypse, dans le sens où ils ont, une fois avoir barricadé le faubourg, plus aucune information qui ne sort, mais qui ne rentre dans le faubourg. Et même si on sait bien que dans les années 80-90, il n'y a pas eu d'apocalypse, c'est en tout cas le sentiment que peuvent avoir les enfants. Concernant cette définition du temps et du moment dans lequel on peut faire situer une histoire...je suis en train de travailler sur un roman qui sera de la science-fiction un peu plus classique, enfin dans le sens où, où la question de la science sera davantage au centre du travail, en imaginant Taïwan dans une cinquantaine d'années, et sur la manière dont on peut utiliser l'intelligence artificielle pour accompagner des personnes seules dans les familles. Donc en imaginant l'histoire d'une famille avec une mère, un frère, une sœur, et parmi lesquelles...L'un d'entre eux seulement serait un véritable être humain, un autre serait donc créé à base de l'intelligence artificielle et un cyborg.
我想就最近一直思考这个最新的故事，我假想我自己对于封闭的这一个世界观还是比较感兴趣的。那对我来说，在一个这样子的封闭的，如果家庭是一个封闭的环境的话，那在一个封闭的一个空间里面，究竟我们会赋予这刚刚我提到这三种不同的状态的人形物，我应该赋予他们是不是有共同的一个意志？那个意志就是说，这三种人，这三个不同的人，他们都有权利决定自己可以自己结束掉自己的生命吗？的这一个问题，对。
Alors, je m'intéresse dans la plupart de mes romans, en tout cas pour ceux qui sont La Guerre des Bulles, mais je peux vous montrer également L'Asile des Illusions, à la notion d'espace clos. Ce sont des dystopies ou en tout cas des sociétés qui vivent en vase clos, sans forcément de contact à l'extérieur. C'est un thème qu'on retrouve à la fois dans L'Asile des Illusions et dans La Guerre des Bulles. Et j'aimerais continuer cette réflexion en situant une histoire basée dans le futur avec une famille, la famille dont je viens de présenter les grandes lignes.Qui serait en tout cas refermée sur elle-même ou vivant de façon extrêmement, non pas autarcique, mais en tout cas voilà, sans forcément beaucoup de rapport à l'extérieur, et donc m'interroger dans ce roman sur leur conception à chacun, trois créatures différentes, humaines ou non, et leur conception de la vie et de l'ouverture à l'extérieur. Donc en parlant peut-être de cet espace clos, peut-être demander à Gaoifan de nous en dire un peu plus. Pourquoi est-ce que cette dimension l'intéresse autant, à la fois dans l'Asile des Illusions, mais également dans La Guerre des Bulles, l'idée de couper avec l'extérieur, alors même que peut-être que notre monde aujourd'hui, en tout cas, nous donne davantage à penser que nous sommes dans une société de plus en plus ouverte en réseau. Pourquoi est-ce qu'il choisit de traiter cette dimension-là ou cet aspect-là de la vie en société ? Est-ce que c'est une métaphore peut-être de notre réalité ou est-ce que c'est simplement un thème qu'il apprécie ?
那可能就是关于这种封闭空间的书写。 那你会把它当作是一种我们现在世界的一个比喻，还是光是你喜欢的一个主题？
我先谈一下我的那个另外一个长篇小说，就是《幻仓》。那这个《幻仓》基本上它是一个这样的故事原型，就是有一群人好像是白老鼠一样被送到地底下的某一个实验空间。那这群人里面呢，就共同生活在里头。 那里头呢有一个叫达利的男主角，他是一个文字工作者。那里面有一个专门管理所有事情的老管家，就叫管家。有一个卖油的 sales， 他又高又胖，就叫高胖。然后里面呢还有两个魔术师在里面彼此较劲，看谁的魔术比较厉害。但这一群人好像是有一种没有任何人告知他，因会他还有一个高楼层管理人。
Simplement pour donner des éléments concernant l'histoire du roman L'Asile des Illusions, c'est l'histoire d'une communauté qui est envoyée dans un bunker souterrain, parmi lesquels donc, le personnage principal, Dali, une sorte de concierge, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de tout le confort matériel à l'intérieur du bunker, un marchand d'huile et notamment deux magiciens, deux frères jumeaux magiciens, qui n'arrêtent pas de se disputer pour savoir lequel a la meilleure magie des deux. Et dans cette histoire, ces personnages envoyés dans ce bunker souterrain ignorent tout à fait pourquoi ils ont été envoyés ici. La seule indication qu'ils ont, c'est qu'il existe un autre concierge, mais situé, lui, dans une tour au-dessus, à la surface, qui est, si vous voulez, le chef du concierge du dessous. En réalité, quand vous regardez, c'est mon cas, beaucoup de films de science-fiction, quand vous lisez beaucoup de romans de science-fiction, la majorité d'entre eux s'intéressent en particulier au monde extérieur, à savoir à entreprendre des grands voyages dans l'espace, aller à la rencontre d'espèces extraterrestres avec lesquelles il pourra s'engager soit des contacts, des collaborations, des guerres, etc. Ce qui m'intéresse, c'est davantage ce que Ballard appelle, donc J.J. Ballard, l'écrivain, appelle l'espace, le monde intérieur ou l'espace intérieur, à savoir à un moment donné où la science-fiction s'intéresse à l'immensément grand, ou en tout cas à ce qui va être tourné vers l'extérieur, vers l'espace, essayer de revenir à ce qui est finalement le plus intérieur ou le plus clos. Et donc ce roman, L'Asile des Illusions, et également La Guerre des Bulles, sont un petit peu une réponse ou en tout cas un écho à ce que j'ai lu de Ballard.
就我来说，其实就是因为封闭，因为封闭的关系，所以那个封闭的状态其实就是科幻产生的地方。因为那个地方，对我个人来说，一旦把很多东西封闭之后，它就有机会产生科幻的想象。 不一定是要真正在做太空漫游，也不一定是要真正遭遇外星人，那个科幻世界对我来说是另外一种，所以我特别喜欢内部思考的科幻，特别是我刚刚提到的刚刚那个三个的那个人的故事，我就会问说，假设50年后甚至100年后，我们真正出现了第一个可以陪伴人的 AI 的孩子，那如果这个孩子也能够 随着时间慢慢的更换他的机体身体长大，那到最后面，是不是他可以决定现在我们 可能大家面临到的就是老了之后可不可以安乐死的这个问题。那我是不是也可以赋予一个AI 的人去思考他可以安乐死这件事情？像类似这样的题目是我个人很感兴趣的。
Alors, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette idée que avec un espace clos, fermé, puisse naître à l'intérieur de cet espace la science-fiction. Pour moi, la science-fiction peut aussi se développer non pas seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Et c'est cet aspect renfermé, barricadé, qui va parfois susciter, en tout cas chez moi, l'imaginaire science-fictionnel. Donc j'en parlais tout à l'heure pour l'histoire de ces personnages enfermés dans un bunker extrêmement exigu et qui ne savent pas vraiment ce qui leur arrive. C'est une dimension que je vais essayer de continuer à explorer, je l'ai dit tout à l'heure, sur cette histoire d'une famille avec notamment un enfant qui serait donc... qui aurait été conçu avec l'intelligence artificielle, et m'interroger comment, de quelle manière est-ce que l'intelligence artificielle peut éventuellement développer une subjectivité, peut éventuellement se libérer de la condition de l'humanité, réfléchir au vieillissement et qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter au vieillissement, mais dans un espace fermé.
Donc, pour répondre à la question de la question, 从封闭是不是来看，就是是不是我自己喜欢，或者是我所看见的世界？是的，对我来说，其实就像刚刚我所聊的，透过科幻，其实我看到的比较像是现实的状态，比较像是你住在不同的楼层的人，你看到世界末日的景象基本上是不太一样的。
Alors pour répondre à cette question, pour savoir si l'aspect clos de mes romans est une métaphore du monde actuel, je dirais qu'en partie, effectivement, dans le sens où j'ai l'impression, comme dans les romans, dans un roman de Ballard, donc IGH, que vous connaissez peut-être, nous vivons tous à des étages différents, et quand bien même nous interagissons d'une certaine manière, nous sommes aussi fermés en fonction de la classe, en fonction de notre communauté, aux uns et aux autres. Et chacun de nous a sa manière de concevoir la fin du monde. Peut-être terminer sur une question, puis je laisserai éventuellement des questions à la salle. Alors, il a commencé à nous parler de ses prochains projets. L'Asile d'illusion fera peut-être le jour en français chez Mirobol. L'Asile des illusions, c'est à la base envisagé comme une trilogie. Donc avec ce Dali et ses personnages qui se situent dans un bunker, peut-être juste quelques mots pour lui demander s'il compte continuer cette trilogie ou s'il a de nouveaux projets. 那可能就提到你以前提到，就是这个幻商，可能就是你们会把它设计为一个三部曲，那是不是也可以谈谈你其他两部曲？
幻商的第一个故事基本上是在地底下的故事。接下来有一个是地表上的故事，那地表上的故事我已经开始写了大概3万多字吧，那它其实是两个故事的轴线，那第一个故事轴线其实是有点像是蒸汽朋克这样子的背景去描述的，那在那样子的蒸汽朋克的年代里面，有一群人活在一个好像没有尽头的世界里头，那同时在这个故事的另外一条线里面其实是一个非常非常进化的未来人，那未来人他整个人的身体状态本身就像一个时间机器一样，他可以在他的身体的任何一个开关启动之后，他就开始进行了时光旅游，那他可能就会慢慢的去寻找，就是在整个不同的这个维度当中还有没有一些不同的人活在不同的维度上，那这是在地表上面的故事。大家可能会觉得很奇怪，就是为什么这样两个奇怪的东西会被称为在地表上的故事？
Alors, j'ai actuellement deux idées. Il y a un roman que j'ai commencé à écrire. Je suis encore en train de réfléchir. Deux trajectoires différentes pour le deuxième tome de cette trilogie autour de Dali. Un roman, une première trajectoire qui serait davantage dans un imaginaire un peu steampunk. Où effectivement les personnages vivraient non plus sous terre mais en surface, et une deuxième trajectoire, mais qui formeront peut-être deux romans différents, qui seraient situés au contraire dans un avenir très lointain, où le corps humain serait devenu presque aussi mécanique et utilitaire qu'une machine, et dans laquelle on pourrait voyager à travers différentes dimensions. Et donc ça, ces deux histoires seraient situées non plus sous la surface mais en surface.
这两个故事的结束之后，其实第三个故事就是，对我来说是有点浮起来的故事，漂浮起来的故事。那这个故事，我目前大概想象它有点像是，漂浮在我们可以看见的，但是已经没有重力状态的，像是卫星一样的高度上。然后在那个高度上，它有一个疗养院，我把它叫做太空疗养院。
Tu vois, Igor, je ne sais pas comment faire. Ok, il a fini par un néologisme dont je n'ai pas encore réfléchi sur la traduction, donc on verra plus tard. Sur cette dernière histoire, concernant donc non plus sous la surface, sur la surface, mais davantage dans un espace presque sans gravité, ou en tout cas flottant, dans lequel voilà, j'aimerais développer une troisième histoire, toujours peut-être autour de ce personnage de Dali.
Je vais essayer de vous expliquer, 大家可以想象就是说，假设在100年后，我们没有办法移民到火星，但是呢，我们已经可以开始让某一群人住在比较大型的卫星上面。那第一批送上去卫星上面进行生存实验的会是谁？对我来说，其实是精神病患，因为他们可能会觉得精神病患在那边，就算出了状况死掉了也没有关系。所以他就把这一群精神病患送到这个太空卫星上面。那这个卫星上面，他们其实一直围绕着地球一直在旋转，但他们还是可以看到地球的。那地球可能透过某一些未来的比较好的这种关心的望远镜，他们可以看到这一个在卫星上的这一群就是精神病患。那他们被送上去的原因是因为有一个医生或一个科学家发现，就是如果人长期的处在一个没有重力的状态下的时候，他的精神会比较稳定，所以他就把这一个卫星的太空站变成一个专门治疗地球的精神病的一个太空疗养院。
Alors, en réalité, donc cette fameuse néologisme autour de sera un asile spatial en réalité. L'idée donc serait d'envoyer, on parlait d'un espace flottant à faible gravité, des êtres dans l'espace. Non pas forcément sur une planète, mais dans des satellites. Et les personnages qui seraient envoyés donc, dans ce roman, dans le satellite, seraient des malades mentaux, ou en tout cas des gens qu'on estime malades dans le domaine psychiatrique. Car donc, un docteur, apparemment, dans l'histoire, imaginerait effectivement qu'une faible gravité permettrait un traitement, mais en essayant de réfléchir autour, voilà, toujours de cette notion de d'utopie ou de dystopie fermée. Voilà, peut-être donc plein d'idées d'histoires en route. Peut-être que je peux laisser un petit peu. On a encore quelques temps pour d'éventuelles questions. Là, je vois pas très bien parce qu'il y a un peu de reflet, mais n'hésitez pas à poser des questions ou bien sur l'auteur ou bien sur la science-fiction taïwanaise en général. N'hésitez pas.
Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une façon particulière d'écrire taïwanaise ou asiatique, ou est-ce qu'il y aurait votre approche à vous, qui est votre façon d'écrire, ou est-ce qu'il y a une méthodologie taïwanaise ? Merci.
Bonjour, 一本是刚刚其实有提到的纪大为的魔他其实是在透过科幻的方式在描述性别的这个议题。那台湾其实回到这个点来看，就是台湾其实是一个因为我们之前刚选出了女性总统，也是亚洲的第一个女性总统，所以性别这个议题在这个很小的岛里面，它其实像是一个压力锅一样，不断的重复的在被讨论，像爆炸一样的东西。那这样子的一个现况回到了一个小说家身上，他其实没有直接处理同志小说，他其实把它处理成是科幻的就是酷儿小说，这是非常非常特殊的一个点。我先举这一个例子。对。
Alors pour vous donner un exemple, mais on sera plus sur quelque chose de thématique, peut-être un peu propre à Taïwan. Taïwan, comme vous le savez peut-être, c'est la première démocratie d'Asie à avoir une présidente femme.Et l'un des romans, donc peut-être je peux revenir sur le style précédent, qui a été traduit en français, ça marche pas, tant pis, il s'appelle Membrane, justement s'empare de cette question qui a été écrite dans les années 90, s'empare de la question de l'identité sexuelle et biologique et en fait de la science-fiction. Et peut-être qu'une des particularités, rien qu'avec cet exemple-là de l'écriture taïwanaise, c'est le dynamisme peut-être de la démocratie en utilisant notamment la science-fiction pour parler de sujets de société.
我举第二个例子是，就是吴明义先生的那个《复眼人》。 基本上它是一个以海洋的环保议题作为科幻的一个出发点的一个小说。那为什么会用海洋议题来讨论？原因是因为台湾就是这么小的一个岛，这么小一个点在地图上面，但是它基本上是被所有的海给围绕的。所以对于一个海岛国家来说，面对海洋这件事情去探索很多事情，本质上就是非常科幻的。
Alors un autre exemple, toujours avec un autre roman qui a été traduit en français, dont on a parlé tout à l'heure, L'homme aux yeux à facettes, qui est pas vraiment un roman de hard science-fiction, mais dont le thème est, dont l'histoire, si vous voulez, s'empare de la question du vortex de déchets du Pacifique Nord, de l'océan de déchets du Pacifique Nord, qui viendrait percuter la côte taïwanaise. Et cette question aussi, elle est en partie très taïwanaise, dans le sens où Taïwan est une île, entouré par l'océan, pour laquelle la question des réfugiés environnementaux, de la montée des eaux, de la question de l'environnement se pose aussi beaucoup. Et cette thématique en elle-même, même si ce n'est pas véritablement un roman de science-fiction à proprement parler, est aussi assez typique de Taïwan. Ou en tout cas, c'est une forme d'écriture qu'on retrouve, cette écriture de l'océan, à Taïwan.
最后举我个人的例子，就是比如像刚刚说的《幻仓》，它是在地底下的一个封闭空间寻找出路的一个科幻小说，或者是像《泡沫战争》，它其实是一群孩子封闭了社区之后，他被这个孩子们想要解决生存问题的一个乌托邦或反乌托邦式的一个小说。那这两个事情，就是你去看到台湾这一个小岛，基本上它就是一个封闭性的小岛。如果我们把它整个圈起来看，它就是一个封闭性的小岛。 从这点来看，其实回到刚刚这三个共同在翻成法文的台湾的小说的作品，它隐隐约约都跟科幻结合的原因，是因为台湾的科幻小说，就我个人来看，它其实就是用这种方式跟台湾的这个现况结合之后产出的一个科幻式的作品。
Pour prendre un dernier exemple justement de ces romans pour lesquels vous pouvez bénéficier d'une traduction en langue française sur la guerre des bulles, et en partie également les idées qui sont présentes dans l'asile des illusions dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette idée, on l'a dit, de l'espace clos, d'un espace fermé, barricadé, que ce soit dans un bunker souterrain, que ce soit dans un faubourg de montagne, et qui peut en partie également refléter cette idée de l'île close sur elle-même et la situation... Alors, il n'en parle pas, mais je peux éventuellement rajouter ce point aussi, de la situation géopolitique un peu particulière de Taïwan, qui est un État, mais sans être reconnu, une nation qui n'est pas reconnue à l'ONU, malgré le fait qu'elle ait un système présidentiel, etc. Et toutes ces dimensions-là, qui sont en lien, et ces romans le montrent avec la science-fiction, montrent en partie, c'est pas tellement en termes d'écriture que de thématique, que finalement, des auteurs taïwanais vont utiliser la science-fiction, même si les romans peuvent parfois être difficilement étiquetés en tant que tels, pour parler de la situation à Taïwan. Et ces trois romans disponibles en français peuvent vous en donner une idée. S'il y a d'autres questions ? Oui, devant, je crois.
Bonjour. Le titre, là, c'est l'auteur et son ombre. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est la complexité de la traduction pour vous. Si ça a été long, et les contacts que vous avez pu avoir ensemble, comment ça s'est passé? Par exemple, le titre, est-ce que c'est vous qui l'avez... C'est traduit littéralement ou pas, par exemple?
Oui, alors, pour répondre sur le titre, oui, c'est exactement le même titre, en fait, La guerre des bulles. Alors, pourquoi les bulles? C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Vous verrez que ça a une importance aussi, et que finalement, ce sont les bulles qui, quand elles commencent à s'élever dans le faubourg, vont... témoigner de la prise de contrôle. Alors concernant ma position de traducteur, je suis légitime dans le sens où c'est moi qui l'ai traduit, mais tous les traducteurs ont des manières de faire différentes. C'est un roman dont la langue est assez complexe, en fait. Non pas tant de par son vocabulaire ou de par la manière dont il construit l'histoire, que parce qu'il s'agit d'une grammaire assez déstructurée. J'ai eu l'occasion par le passé de traduire d'autres auteurs de science-fiction, chinois notamment, qui d'un point de vue thématique, vocabulaire, etc., étaient un peu plus disons, foisonnés ou plus complexes. L'une des difficultés de ce roman, c'est justement le jeu, les jeux qui ont lieu sur la langue. Alors je ne sais pas s'ils seront retranscrits ou s'ils seront ressentis dans la version française, je l'espère. J'espère qu'on aura aussi des moments où on se dira « tiens, c'est un peu bizarre cette phrase ». Peut-être que certains d'entre vous trouveront que ce sont des erreurs de traduction, c'est possible. Mais en même temps, ça voudra dire que c'est un peu réussi dans le sens où parfois on percute ou on se heurte à certaines structures. Concernant enfin la relation entre le traducteur et l'auteur, c'est un immense avantage et un immense honneur pour moi d'avoir l'occasion de traduire des auteurs vivants, relativement jeunes, vous voyez, donc avec lesquels on peut tisser des liens et des relations. Ouais. Je ne sais pas s'il veut dire quelque chose.
但是我们绝对不可以关系太好，这样。
On peut pas avoir des relations trop bonnes non plus, faire attention. D'autres questions ? D'accord, je vois pas donc. Non, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à retrouver l'auteur en dédicace tout à l'heure. À 15h, en revanche, c'est pas maintenant, dans le sens où il y a une deuxième table ronde qui vient autour du personnage non blanc dans la science-fiction, un titre un peu étrange dont vous allez entendre parler si vous restez saine et zèle, et vous retrouverez également Gao Yifang qui participera à cette table ronde. Voilà, je vous remercie, on peut peut-être applaudir l'écrivain.
Merci.